Radio Campus.
Campus.
La nuit.
On réécoute une émission magazine suivie d'une émission musicale à 4 heures.
Eh bien, bonjour à toutes et à tous. René Lavergne avec vous à l'antenne de Radio Campus Lille 106,6 FM, campuslille.com et en DAB+, sur la métropole lilloise et sur l'Artois. L'émission Ondes de Chine, c'est chaque premier samedi du mois, donc sur Radio Campus. Et en général, chaque émission, c'est un thème. Le thème d'aujourd'hui eh bien, m'est venu quand j'ai vu la parution d'un nouvel ouvrage qui s'intitule « Quand la France s'éveillera à la Chine » avec le sous-titre « La longue marche vers un monde multipolaire ». Donc nous allons présenter cet ouvrage avec deux de ses auteurs. C'est un ouvrage écrit à quatre mains, donc dans une dizaine de minutes. Mais en attendant, on va retrouver notre coéquipier Go Gang Han, qui est donc à Chengdu, comme les semaines précédentes. Bonjour Go Gang.
Bonjour René.
Voilà.
Vous allez bien ?
Eh ben superbe, ouais,
très
magnifique.
Content de t'avoir.
Ouais, moi aussi. Donc peut-être tu peux nous dire. Alors je vais retourner la formule. Hein. Là, c'est donc ce livre dont on va parler avec nos invités, c'est Quand la France s'éveillera à la Chine. Et moi, je retourne un peu cette phrase en disant Quand la Chine s'éveillera à la France. Est-ce que la Chine porte un intérêt particulier à la France, selon toi, qui est pour l'instant en Chine et qui est chinois?
Ah oui, je pense que c'est intéressant ce titre, oui. Parce que quand vous m'avez parlé de ce livre, vous m'envoyez un peu présentation sur ce livre. J'ai vu ces deux auteurs qui s'exprimaient certaines des idées. Je pense que c'est très intéressant, très intéressante pour le peuple chinois. Et surtout, dans le livre, les auteurs soulignaient des points de vue. Je pense que c'est intéressant. Parce, par exemple, il a dit qu'il faut parler moins d'idéologie, c'est-à-dire déidéologie, et plutôt on parlait beaucoup de la vie actuelle, réelle, comment améliorer la vie, la qualité de vie. Et je pense que ça, c'est intéressant. Et même le titre, je crois que c'est beaucoup intéressant, attiré, et beaucoup d'auteurs chinois, quand ils parlent français, je pense que peut-être bientôt ce livre va être traduit en chinois.
Alors justement, cette traduction de livres français en chinois, est-ce que c'est quelque chose qui est relativement important? Est-ce que tu peux dire que dans les librairies, on vend de la littérature française? Et après, on parlera, si tu le veux bien, de certaines de tes activités autour du théâtre français en Chine, à Chengdu.
Oui, oui, bien sûr, c'est intéressant. Donc, peut-être à l'occasion, quand vous parlez à ces deux auteurs, ça m'intéresse beaucoup de diriger cette mission pour traduire, ou bien je participer à la traduction de français en chinois. Ensuite, donc, dans ma province, à Sichuan, on a une maison d'édition de Sichuan qui est très intéressante, très connue et très importante. Je pense que c'est la première maison d'édition de la Chine. Ça me rappelle, donc, j'ai un ami chinois qui est éditeur dans cette maison, qui est responsable éditeur pour un livre sur le président français Emmanuel Macron lors de la première fois visité la Chine. Voilà.
Et donc pour la partie culture française, est-ce qu'en Chine c'est quelque chose qui est éventuellement apprécié? Est-ce qu'il y a des gens qui vont chercher cette culture? Et est-ce que toi, tu amènes parfois de la littérature française à des personnes qui habitent dans le dans la province de Sichuan, hein? Est-ce que ça a du succès? Est-ce que tu rencontres des gens qui ont l'air passionnés?
Oui, oui, absolument. Vous avez raison de souligner ce point de vue. Par exemple, lorsque j'étais en Chine, cette fois-ci, et j'organise chaque mois le théâtre Molière dans ma province, à Sichuan, à Chengdu. Et tous les mois, je réunis une dizaine d'amis, ce sont des amateurs, ont réalisé des théâtres français. Et ça, c'est intéressant. Je pense que au niveau de politique entre la Chine et la France, c'est les deux pays. On peut parler sans obstacle. Je pense que ça, c'est intéressant. Ensuite, la France, c'est un phare pour la Chine dans ce monde. Et tous les Chinois, y compris, ce sont des hommes politiques, ils savent très bien. La France, c'est la seule pays européen à l'époque qui est reconnu la Chine, quand la Chine s'établit ses premières fois, la nouvelle Chine, par le communiste Mao Zedong. Du coup, après, entre la Chine et la France, on a une relation extrêmement merveilleuse. Et on a réalisé beaucoup, beaucoup de projets ensemble. Et par exemple, même donc, dans ma province, le premier, l'entreprise l'environnement pour de l'eau, c'est la compagnie des eaux à l'époque, dans les années 70. Et la littérature française pense que donc, c'est beaucoup, beaucoup représenté en Chine, mieux que la culture française se présentait en France. Par exemple, tous les Chinois y connaissent beaucoup des auteurs sur la France. Donc, tous les Chinois, écoliers qui connaissent très bien Tot, qui publient un article ou un livre, un petit livre s'appelle « Dernier leçon ». Tous les Chinois y connaissent Balzac, Maupassant, Molière, même y compris certains des auteurs très connus, modernes, par exemple Camus, et Jean-Paul Sartre comme philosophe, et l'ancien philosophe français, Jean-Jacques Rousseau, Diderot, Montesquieu, Voltaire, etc. Je crois que la France présentait très, très, très bien en Chine, non seulement dans certains domaines, par exemple politique, la culture, littérature, et aussi dans les sciences technologiques, hein, donc biologiques, dans la pharmacie, il y a beaucoup de domaines français qui se présentent bien, bien, bien en Chine.
Voilà, Mia Gugong, je vais devoir te quitter là pour retrouver nos invités dans quelques instants. Bien sûr, on se retrouve le mois prochain pour un autre thème.
D'accord.
Et avec peut-être plus de développement, puisque tu auras largement l'occasion de contribuer à ce nouveau thème. Là, on va céder la place. Je vais mettre une petite chanson entre deux pour démarrer un petit peu autour de cet ouvrage.
Et puis bonjour à nos amis, l'auteur, voilà, les 12 auteurs.
Absolument.
Qui a dit, voilà, s'ils s'intéressent, donc vous pouvez transmettre les amis amitié pour eux. Et c'est d'accord, donc j'aime bien diriger cette mission vers les traductions de français en chinois.
Très bien, ben, c'est bien noté, Gugong. Je te souhaite une très belle journée.
Très bien.
Il est un peu plus de 18 heures en Chine. Et donc, merci d'avoir patienté.
Oui, donc, dans une heure, je vais partir pour la compétition athlétisme.
Voilà. Pas trop de dégâts avec les intempéries, beaucoup de pluie en ce moment? À Chengdu.
Ah, ça va. Donc, à Chengdu, c'est vrai, il y a une tempête très, très forte dans certains arrondissements. Il y a certains de dégâts, mais dans ma résidence, sans problème. Et aujourd'hui, je suis revenu à Meishan. C'est à peu près 60 km de Chengdu, donc dans un stade pour une compétition athlétisme. Voilà.
Bon, bien.
C'est bien.
Porte-toi bien et le sport, ça fait partie aussi d'une certaine manière de la réussite aussi physique.
Oui.
Très bonne journée à toi.
Donc, je suis content de venir en Chine pour participer à ce type de compétition. Comme en France, donc en France, à Lille, donc j'ai l'occasion de participer à certaines compétitions. Donc ça, c'est intéressant. Des meetings, réunir différents âges, différents sportifs, différents niveaux. C'est intéressant, oui.
Merci, Gogong. À bientôt au mois prochain. Donc, premier samedi de juillet. D'août, pardon. Premier samedi du mois d'août. Voilà. Au revoir.
D'accord, ok.
Voilà, l'émission de Chine se poursuit donc. Alors, nous avons, avec Gogongran de Chengdu, évoqué un petit peu cet aspect de la relation entre la France et la Chine et de voir l'intérêt aussi pour les Chinois de ce que représente la France et de ce que produisent les Chinois. On aura peut-être l'occasion de revenir plus largement d'ailleurs sur cet aspect-là. Aujourd'hui, on est dans l'autre sens avec cet ouvrage intitulé « Quand la France s'éveillera à la Chine », avec comme sous-titre « La longue marche vers un monde multipolaire. Et donc, pour nous parler de cet ouvrage, je vais inviter deux auteurs, Jean Julien et Franck Marsal, donc deux des quatre auteurs de cet ouvrage. Et donc, on retrouvera Franck Marsal tout à l'heure, parce que pour des raisons techniques, voilà, on ne peut pas mettre les deux ensemble, ce qui est un peu dommage. Tout d'abord, bonjour Jean-Julien.
Bonjour René, bonjour à tout le monde, bonjour à toutes et à tous. Oui.
Alors, quand j'ai vu cet ouvrage, donc un gros livre, hein, 330 pages, avec ce titre, hein, « Quand la France s'éveillera à la Chine », forcément, pour l'émission de Chine, ça m'a paru tellement évident de vous inviter que je l'ai fait, parce que cette émission, justement, est en quelque sorte, depuis 18 ans, consacrée à mieux comprendre la Chine et sa réalité, sur le terrain aussi, et puis ce que les deux pays peuvent s'apporter mutuellement. Donc évidemment, cet ouvrage entre en partie dans cette thématique globale qu'on retrouve. Et donc peut-être qu'on pourrait dire tout d'abord, puisque en haut du titre, il y a une citation qui pourrait peut-être nous être présentée, donc Jean-Julien.
Oui, alors j'y pensais un peu, parce que poser la question de quoi parler, parce que c'est vrai que c'est un gros livre et c'est un peu une légende des siècles de l'Eurasie, hein, de l'Eurasie, de Brest à Shanghai, hein, si on y réfléchit, la question. La couverture du livre, c'est une calligraphie de Mao Tse-tung qui signifie « servir le peuple ». Servir le peuple, c'est une notion, c'est pas de la démagogie, hein, c'est très ancien d'abord, parce que d'une certaine manière, c'était le mandat du ciel des empereurs. C'est-à-dire que les empereurs, ils avaient un pouvoir absolu, mais ce pouvoir, ils ne le détenaient pas du ciel comme on l'entend ici. C'est parce que le ciel, c'est le peuple, en fait. C'est ça, le fond de l'idée, c'est ça. C'est que, par exemple, Mao Tse-tung racontait une histoire, celle de Yukong, qui déplaçait les montagnes. Il avait deux montagnes devant chez lui, et il est parti avec sa pelle et sa pioche, et puis, vas-y, que je te creuse, et que... Bon, alors les gens se fichent chez lui, mais tu es fou. Mais non, parce que quand je serai mort, mes enfants, mes fils, continueront à creuser, et nous enlèverons ces deux montagnes.
Alors, entre vous et moi, on a un petit souci technique, la France n'est pas complètement en capacité d'irriguer son territoire en téléphonie.
Ah oui, je suis dans une zone blanche et on n'entend pas très bien. Voilà. Ouais.
Donc là, ça a l'air d'aller, donc ne pas bouger, ce serait la solution.
Je ne sais pas bouger d'un poil. Je suis à l'ombre, mais
désolé.
Bon. Des fois, il y a des bruits bizarres, mais c'est les cigales, parce que ça s'est réchauffé. Hein,
c'est quand même bien les cigales, hein, l'été.
C'est
enfin,
très bien, j'adore.
C'est agréable. Voilà.
Bon, ça me rappelle les vacances.
Voilà.
Et donc, raconter l'histoire de Boine qui voulait déplacer les montagnes et qui s'était entretenu avec sa pelle et sa pioche. Et on se moquait de lui, mais comment vous allez déplacer les montagnes, vous êtes fous. Non, mes enfants continueront après moi et nous arriverons à déplacer les montagnes. Et Mao continue en disant, voilà, cette histoire-là ancienne. Eh bien, parce qu'elle se termine, dans le sens où le ciel envoie des anges soulever les montagnes. Ils étaient émus de voir la ténacité, la détermination de Yuan, et ils ont enlevé les montagnes. Et Mao dit, mais nos deux montagnes, c'est le féodalisme et c'est le colonialisme. Et nos anges, à nous, c'est le peuple. Voilà, donc le ciel, en fait, c'est le peuple qui aide les colonistes. C'est l'initiative de creuser les montagnes. Et le peuple est ému par l'activité des communistes, par le soin des communistes pour détruire ces deux montagnes qui pesaient sur ses épaules. Le peuple vient à leur aide et soulève et enlève ces deux montagnes. Voilà ce qu'expliquait Mao Tse-tung.
Voilà.
Donc, servir le peuple, ce n'est pas une notion démagogique, c'est un lien entre ceux qui dirigent et le peuple lui-même.
Voilà, on va dire que
c'est le sens de cette citation-là.
C'est le contrat, on va dire, hein, entre le peuple. Alors, je vais peut-être revenir sur cette question.
Excuse-moi, ça veut dire aussi que si le peuple est mécontent, eh bien, le dirigeant, il saute.
Ben oui, bien sûr.
Le dirigeant, il saute. Quand il y a eu, quand il y a eu l'épidémie...
Radio Campus, la nuit.
Les rediffusions.
Avait fait un banquet monstre pour fêter la nouvelle année. Et puis avec lui, le secrétaire du Parti communiste, il avait fait un banquet monstre. Alors, après ça, ils ont été limogés tous les deux. Ils ont été limogés tous les deux parce qu'ils n'avaient pas respecté le contrat. Voilà.
Alors, je vais revenir d'une manière plus globale sur un peu le fonctionnement ancestral et actuel, hein, peut-être, de la Chine, pour faire un peu le pont. Donc, tout le monde se souvient, en lisant un peu l'histoire de la Chine, de cet empereur qui s'appelait Qin, avec deux dynasties Qin, hein, donc Qin Huangdi, Shi Huangdi, donc le premier. Sa dynastie a été importante parce qu'il a été l'empereur qui a rassemblé les royaumes épars, on va dire, de la Chine pour faire un grand pays, un empire. Et donc, oui. À la suite de Qin, qui n'a pas duré longtemps, hein, pour des raisons... Alors, il a coûté trop cher, il a mécontenté son peuple. Exactement, on retombe un petit peu sur ces travers qui aboutissent à la fin d'une dynastie. Ensuite, on a eu la dynastie Han, la dynastie Tang, etc. Et donc, à chaque fois, les dynasties s'effondrent plus ou moins vite. Tout dépend du contexte. Il peut y avoir des problèmes de famine, des problèmes de tremblement de terre, et puis
aussi,
de mauvaise gestion.
Ça peut peser dans la balance.
Ouais, oui. De mauvaise gestion. Donc, on va dire que le dirigeant chinois, depuis tout le temps, il est condamné à réussir ou à disparaître.
C'est ça. Et c'est d'ailleurs la première partie du livre qui est écrite par Daniel Petra, qui est un peu la légende des siècles de l'Eurasie. C'est toute l'histoire un peu de ces empereurs et de ce qui s'est passé à cette époque-là. Et elle raconte un peu tout ça, sans entrer dans tous les détails.
Très intéressant et très documenté, je trouve.
Oui, et puis aussi toute l'Europe centrale, parce que elles ont voyagé aussi, seulement Daniel est allé à Cuba, mais elles ont voyagé aussi en Europe, elles sont allées en Ukraine, elles sont allées en Chine, etc. Et Marianne Denob est allée au Xinjiang, parce qu'elle parle, elle est multilingue, hein, polyglotte, elle parle pas mal de langues, et elle est allée au Xinjiang, et comme elle parle aussi le turc, elle comprend le langage des Ouïghours, qui est un langage turcophone, en fait.
Oui, bien sûr.
Turkmène, ce sont des Turkmènes. Donc, elle est allée là-bas et elles ont cette expérience-là, oui. Voilà.
Donc, ce que je voulais dire aussi, c'est que pour installer un pouvoir quelconque en Chine, il faut avoir plusieurs notions en tête, c'est-à-dire, trouver une méthode. De trouver un argument pour justifier d'avoir le pouvoir et de le conserver. Et donc, je pense que cette nouvelle dynastie, je vais l'appeler comme ça, on peut redéfinir après, hein, qui démarre à Mao, on va dire, hein, avec elle a eu comme ciment de la société le communisme, on va dire ça comme ça, mais en se rappelant comment fonctionnent les dynasties depuis le début et en s'organisant pour préserver à la fois le pouvoir et, si possible, le peuple.
C'est ce que les dirigeants suivants ont appelé siniser le marxisme, c'est-à-dire appliquer le marxisme dans les conditions particulières de la Chine. C'est ce qu'ils appellent aussi le socialisme à la chinoise. Parce que ce n'est pas le communisme. Le communisme est la société sans classe, mais il y a encore des classes en Chine. Mais c'est le socialisme à la chinoise. Et donc, c'est le socialisme avec les conditions spéciales, particulières à la Chine, qui ne sont pas celles de notre pays ou de notre. Chaque pays a ses particularités et doit faire en fonction de ses propres particularités.
Absolument. Et, donc, on verra peut-être avec Franck Marsal cette partie-là tout à l'heure.
Je ne veux pas en parler, je lui laisserai la parole, bien sûr.
Par contre, c'est d'aborder une notion, enfin, quelque chose qui est très visuel, c'est traverser la rivière en tâtant les pierres. Voilà toute une période qui a nécessité de passer la rivière sans trop connaître où on mettait les pieds, c'est ça, Jean-Julien?
Parce que la Chine, elle a son trajet propre, ses conditions propres initiales, son histoire, et forcément, il faut en tenir compte. Il faut être réaliste, il faut être pratique. Et Deng Xiaoping, qui avait, après la révolution culturelle, il y a eu en 81, il y a eu un bilan critique et autocritique du Parti communiste, à l'époque de Deng Xiaoping, et ils ont critiqué la révolution culturelle, mais ils n'ont pas jeté Mao Tse-tung à la poubelle. On ne jette pas l'enfant avec l'eau du bain, c'est-à-dire que Deng Xiaoping disait « il faut respecter l'esprit pratique, partir des faits », comme disait Mao Tse-tung. Et pourquoi partir des faits? Parce que Mao Tse-tung, un des premiers textes qu'il écrit, les premiers textes de ses œuvres choisies, c'est l'analyse de classe de la société chinoise. C'est-à-dire qu'il est allé sur place, il est allé voir les paysans, il est allé voir les coulis, il est allé voir les différentes classes de la société, parler avec eux, il a fait faire des enquêtes, il en a fait lui-même. Et c'est à partir de ça qu'il a défini la propre stratégie, celle qu'il a indiquée pour ses camarades, celle qu'il a préconisée, et qui consistait en particulier à unir tous ceux qui pouvaient être unis, y compris des industriels qui étaient, on va dire, cloués au sol par les colonialistes. La Chine ne pouvait pas se développer sur le plan industriel, économique, parce qu'elle était, sous le couvercle du colonialisme et puis après de l'impérialisme. On le voit encore lorsque Trump essaie d'empêcher la Chine d'accéder à des nouveautés, à même acheter des composants électroniques. Mais finalement, la Chine se débrouille elle-même. Mais il y a des industriels chinois, des capitalistes, qui font de leur mieux pour aider leur pays, même si c'est un pays socialiste, mais tant pis, ils donnent de leur personne. On les a conviés à le faire à la fin du mois de mai, si je ne me trompe pas. Xi Jinping a appelé les propriétaires, les capitalistes, les industriels, l'économie privée à faire un gros effort. Évidemment, dans le cadre du socialisme.
Alors, Jean-Julien, oui. On peut peut-être oui, mais on peut peut-être évoquer justement les symboles des étoiles d'or, on va dire, jaune d'or.
Eh bien, ce sont les quatre classes fondamentales. Il y a les paysans, les intellectuels, je ne me rappelle plus exactement, mais il y a aussi la bourgeoisie nationale. Les paysans, ouvriers, les intellectuels. Et la bourgeoisie nationale, c'est-à-dire les industriels, ceux qui ont été les impérialistes ont empêché de se développer, et finalement c'est le socialisme qui leur permet de se développer, mais sous conditions. Ce sont ces quatre étoiles, et la plus grosse, c'est le Parti communiste.
Voilà.
Pourquoi ? Parce que c'est le seul parti qui a pu libérer la Chine. Quand Mao Tse-tung a voulu faire, le Parti communiste chinois a voulu faire un front uni avec Chiang Kai-shek, le Kuomintang, contre l'envahisseur japonais qui a fait des dizaines de millions de victimes, Chiang Kai-shek, lui, était surtout préoccupé d'écraser les communistes. Il faisait des campagnes d'encerclement et d'anéantissement. Il en a fait 5 ou 6, jusqu'à ce que ses propres officiers l'arrêtent. C'était l'incident de Xi'an, ça devait être en 36-37. Et ils les ont arrêtés, ils les ont livrés au Parti communiste. Et là, la question, qu'est-ce qu'on en fait? On va le tuer? Et Chou Enlai a insisté, a dit non, on va pas le tuer, on va l'obliger à faire le front uni contre les Japonais. Ils l'ont obligé, ça n'a pas été très facile. Et puis, dès que les Japonais ont été chassés, Chiang Kai-shek s'est tourné en direction des États-Unis, venait m'aider pour chasser les communistes. Alors là, ça a été terminé pour lui. L'armée rouge l'a chassé et il s'est réfugié à Taïwan.
Oui, bien sûr. Oui. Donc, voilà. L'histoire de la Chine est très longue.
C'est parce que, je voulais dire par là que c'est pour ça que le Parti communiste est resté au pouvoir et qu'il a gardé le pouvoir. C'est parce que la bourgeoisie de Chiang Kai-shek avait démérité. Elle n'avait pas respecté le mandat du ciel. Elle n'avait pas respecté non plus ce qu'avait fait Sun Yat-sen c'est la révolution nationale démocratique en 1911, avec les trois principes du peuple. Une révolution nationale, comme la révolution française d'ailleurs, c'est le même principe, mais à l'époque des révolutions prolétariennes, c'est-à-dire au moment où commençait la révolution bolchevique, juste après la guerre, et là, juste avant 1911, et c'était les trois principes du peuple. Sun Yat-sen, trois principes du peuple. La souveraineté nationale, la démocratie et le bien-être du peuple. On en revient toujours au même. Le bien-être du peuple, c'était encore servir le peuple.
Oui, donc Jean-Julien, on peut peut-être mentionner que dans cette opposition entre les deux clans de la Chine de l'époque, Mao a eu cette intelligence, on va dire, de s'appuyer sur les paysans qui étaient à l'époque la plus grande partie de la Chine.
Exactement. Alors, c'est à la suite de l'enquête, l'analyse de classe qu'il avait faite, et qu'il avait faite à la campagne, parce qu'en Chine, 80-90% de la population, c'était des paysans. Des paysans pauvres pour la plupart. Donc il avait analysé tout ça, les paysans pauvres, les moyens pauvres, etc., les différentes catégories de paysans, bien entendu. Et sur qui on peut s'appuyer ? Ben, il y avait les ouvriers, mais les ouvriers, puisque, comme on a dit, les impérialistes avaient bloqué le développement industriel de la Chine, les ouvriers n'avaient pas beaucoup. D'accord, c'est un parti communiste, prolétarien, avec la classe ouvrière, mais les ouvriers, ils se sont révoltés à Shanghai, ils ont été écrasés dans le sang par Chiang Kai-shek, dans le sang, ça c'est le livre de Malraux, La condition humaine. On se souvient, aussi, si on l'a lu, de cette locomotive où le Kuomintang jetait les communistes dans le ventre de la locomotive, quoi. Et ça, c'est la fin du livre. Donc, comment dire, ça a été un vrai massacre. Et alors, Mao Tse-tung dit, bon, ben voilà, maintenant, on va faire autrement. Notre révolution, on ne peut pas s'appuyer exclusivement sur les ouvriers, parce que la majorité, les plus pauvres, c'est les paysans, et c'est eux qui vont faire la révolution. Alors, ce sera une révolution prolétarienne, communiste, mais tous ceux qui vont y participer, tous ceux qui sont dans l'armée, ça sera des paysans. Ça, c'est eux qui sont le sel de la terre. C'est sur eux qu'il faut s'appuyer. C'est la différence un peu avec la révolution soviétique.
Oui, alors on va rappeler que la révolution soviétique, elle s'est appuyée sur des ouvriers, bien sûr, puisqu'il y avait beaucoup d'ouvriers à l'époque, et il y avait aussi des paysans, mais en nombre beaucoup moindre. Et surtout qu'ils étaient plus sensibles, peut-être, hein, aux revendications, etc., à la contestation du pouvoir en place, etc., pour faire des révolutions. Donc, Mao a, on va dire, utilisé un exemple, mais n'en a pas fait un modèle, et il a adapté une idéologie à ses propres besoins pour prendre le pouvoir et maintenant le conserver au travers de Xi Jinping.
Au besoin de à la situation, en fait. C'est ce que on disait tout à l'heure, c'est-à-dire partir des faits, partir de la réalité, et pas partir des idées préconçues, la gauche, la droite, les rouges, les verts, les machins. Non, partir de la réalité. Qui a intérêt à quoi ?
Alors,
qui sont nos amis, c'est-à-dire qui a intérêt à faire la révolution ? Qui ?
Alors, une fois qu'on l'a faite, etc., c'est comment on garde le pouvoir. Et c'est vrai que la Chine a tellement évolué que, le basculement peut-être, hein, on peut en parler, de la paysannerie vers un monde plus industriel et plus urbain, ça a évidemment changé la façon de pratiquer la diplomatie interne en Chine.
Oui, parce que maintenant, Xi Jinping insiste beaucoup sur le développement technique et sur l'instruction, sur le développement technique, technologique, sur l'apprentissage des sciences et techniques en Chine. Il veut une classe ouvrière, instruite. Et une classe ouvrière qui va jusqu'aux techniciens, aux ingénieurs, etc. Parce que, de toute façon, c'est un processus qu'on voit un peu partout avec la sous-traitance. Maintenant, on n'est plus dans l'industrie d'il y a 50 ans. Il y avait le patron et puis ses ouvriers. Les entreprises ont délocalisé, elles ont sous-traité. Et les sous-traitants, les ouvriers, les sous-traitants, quoi qu'ils fassent, même si c'est nettoyer les toilettes, eh bien, leur travail, ça devient une marchandise. Et c'est plus comme quand ils étaient dans l'entreprise, où on les appelait des improductifs. Enfin, dans l'entreprise de bon papa, non, ils deviennent producteurs de plus-value. Et après, tous les salariés deviennent finalement des producteurs de plus-value quand leur travail devient une marchandise. Et ça, c'est quelque chose qui est nouveau. Mais la Chine La Chine, elle s'appuie sur l'ensemble de la société, elle pousse vers le haut, elle pousse les ouvriers, les paysans, prenez un mobile, faites de la publicité pour vos oranges, pour vos melons, et la publicité, elle traverse toute la Chine avec la 5G, et ils vendent leurs produits de la ferme partout.
Alors, je voudrais
qu'on
conclue peut-être cette partie avec vous, Jean-Julien, sur l'idée que j'ai un peu, c'est que, en gros, Xi Jinping arrive à un moment intéressant pour lui de ce pouvoir, on va dire, de cette nouvelle dynastie, parce que soit il arrive à continuer de développer la Chine, auquel cas il passera le relais à des gens, j'espère, dans de bonnes conditions. Et donc il sera à un moment donné considéré comme celui qui a porté à haut niveau qui est la Chine actuellement, la Chine. Soit il n'y arrive pas, et là on parle de dynastie qui s'effondrerait, mais il restera connu comme la personne qui a amené la Chine à son sommet, quoi, d'une certaine manière. Donc il n'a pas grand-chose à perdre, lui.
Oui, comme ses prédécesseurs, Mao Tse-tung, ils ont porté toujours place Tiananmen, c'est le père fondateur de la nation, dans un sens, enfin après tous les déboires, les malheurs qu'a connu la Chine, au 19e, au début du 20e siècle. Et Xi Jinping aussi, c'est un grand dirigeant.
Ouais. Mais je pense
et
quand même que...
Xiaoping, c'était un grand dirigeant. Xi Jinping, excuse-moi, Xi Jinping, pendant la révolution culturelle, il avait une quinzaine d'années, 15-17 ans, il est allé à la campagne. Il est allé à la campagne, il est allé s'instruire auprès des paysans. Et c'est de ce savoir, de cette pratique, de cette expérience qu'il a gardé, comment dire, le soin, l'idée de servir le peuple. Aujourd'hui, quand l'armée chinoise défile, il continue à crier « servir le peuple ». Donc c'est toujours la même idée qui se poursuit.
Voilà, on va devoir conclure, Jean-Julien, parce que je voudrais passer la parole à Franck Marsal, dans quelques
Bien
instants.
Sûr, je suis bavard, il y a tellement de choses à dire que...
Voilà, donc je rappelle qu'on parle de ce livre qui vient de sortir, « Quand la France s'éveillera à la Chine », sous-titré « La longue marche vers un monde multipolaire » et qu'il est rédigé à quatre mains, Daniel Blétrac, Marianne Delope, Jean-Julien, merci, et Franck Marsal, qu'on va retrouver dans quelques instants. Merci Jean-Julien.
Merci à tous, merci à toi.
Voilà, quand la France s'éveillera à la Chine, donc la longue marche vers un monde multipolaire. Et nous avons le plaisir d'accueillir Franck Marsal. Bonjour Franck.
Bonjour à tous.
Alors, ta ligne a l'air meilleure que celle de Jean-Julien. Il y a des disparités en France.
Eh bien oui, malheureusement, on a perdu ce qui faisait une des forces de notre pays, qui était l'universalité du service public.
Exactement. Alors c'est vrai que nous vivons un monde complexe où la rentabilité est peut-être ce qu'on met en avant, même si en France on a encore quand même une façon de traiter avec une certaine dignité ceux qui sont un peu dans la difficulté.
Oui, et en même temps, on est de plus en plus rattrapé par le fait, je pense, que cette rentabilité qu'on prétend poursuivre ne correspond pas au sens réel du développement du pays. Et donc, on est dans une phase de crise qui s'approfondit parce qu'en réalité, le sentiment...
Radio Campus.
Radio Campus, la nuit.
Les rediffusions.
D'une régression, il s'objective par un certain nombre de statistiques qui sont criantes. Et une des questions qu'on soulève d'ailleurs dans le livre, c'est comme un certain nombre de pays du Sud, est-ce que la France n'est pas dans une phase, après avoir atteint une sorte de plafond de verre qui lui était fixé, dans une phase maintenant de régression de ses forces productives et dont elle a besoin de sortir. Et pour cela, les changements que la Chine apporte au monde sont peut-être une opportunité à saisir.
Alors justement, avant une période très récente, il y avait déjà cette problématique-là, mais avec l'arrivée de Donald Trump comme président des États-Unis, il y a peut-être une urgence encore plus grande à trouver des solutions et des points d'appui.
L'arrivée de Donald Trump, elle est peut-être elle-même le résultat aussi justement d'une crise de ce qu'on considère nous comme l'impérialisme dominant, c'est-à-dire le centre qui exploite la rente de la périphérie et qui est arrivé à ses limites, puisque après une phase hégémonique à la destruction de l'Union soviétique, où il a pu remodeler autant qu'il l'a souhaité certaines régions du monde, ce centre impérialiste est confronté maintenant à la construction d'un nouveau centre industriel, d'un nouveau centre de pensée, de développement scientifique, technologique, qui est porté par la Chine et qui vient renverser complètement les rapports mondiaux, justement ces rapports entre des pays développés et des pays qui étaient exploités et limités dans leur développement.
Alors, donc la Chine a tendu la main vers d'autres pays et a proposé alors, une partie avec la ceinture, les routes de la soie, on va dire, pour résumer, à renouveler. Et puis, il y a un appel à mettre en commun aussi les pays qui le souhaitent, leur donner un avenir commun. Peut-être on peut développer cette idée ?
Oui, L'idée générale, c'est que la domination en fait de l'Occident sur le monde, enfin quand on dit l'Occident, c'est un petit peu réducteur, il faudrait rajouter le Japon, ce que Samir Amin appelait la triade, l'Europe occidentale, l'Amérique du Nord et puis le Japon, bloquer le développement et instituer un mode qui n'était plus le mode colonial d'oppression, c'est-à-dire que les pays ont réussi au XXe siècle à conquérir pour la plupart leur indépendance politique, mais par contre ils n'avaient pas accès au développement, n'avaient pas accès aux capitaux, n'avaient pas accès au savoir-faire, aux technologies qui étaient nécessaires aux infrastructures pour leur développement. Et la Chine, la première, de par ce qu'a décrit un petit peu Jean-Julien et ce qu'on développe dans le livre, a réussi à franchir ce plafond, à élaborer une stratégie qui lui a permis d'acquérir des forces productives qui sont d'une nouvelle échelle, d'une nouvelle dimension par rapport à ce qui se faisait dans le monde. L'un des chiffres qu'on donne, c'est qu'aujourd'hui, la Chine représente à elle toute seule à peu près 50% de la production d'acier mondiale, c'est-à-dire qu'en quelques dizaines d'années, la Chine a réussi à doubler par sa propre production, ce qui se faisait précédemment dans le reste du monde. Et donc ça offre un potentiel de développement pour l'ensemble de ces pays qui aspiraient à autre chose et qui aujourd'hui veulent absolument sortir de ces rapports de domination et ils ne veulent plus être placés sous la dépendance d'une hégémonie pour avoir le droit à se développer.
Alors ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que cette puissance nouvelle de la Chine contemporaine, elle a déjà été puissante il y a 1000 ans. Il faut quand même dire qu'elle était le plus grand pays du monde aussi d'un point de vue économique il y a 1000 ans. Donc l'idée, c'est quand même de voir à partir d'un certain niveau d'économie et d'argent, alors sous diverses formes, de biens, etc., vient ce que Macron a appelé le ruissellement, mais qui là est effectif. Ça c'est intéressant comme idée, surtout pour ceux qui voudraient aussi accéder à une remontée de niveau économique, mais en l'accompagnant de retombées sociales.
Oui, alors ce qui est très intéressant, c'est que effectivement, c'est un peu un ruissellement qui marche, mais parce que c'est le ruissellement de quelque chose qui est réel et pas le ruissellement de quelque chose qui est simplement d'une certaine manière fictif, c'est-à-dire on n'est pas sur du pouvoir monétaire, on est sur des forces productives, c'est-à-dire que on produit des richesses utiles à l'humanité. Et donc, effectivement, quand on élargit les capacités de production, on peut changer les conditions de vie, à la fois matérielles, mais aussi sociales et culturelles, pour une échelle élargie de l'humanité. Et c'est ça l'enjeu, finalement, auquel on est confronté aujourd'hui, puisque ce qu'on avait jusqu'ici, c'était peut-être un niveau de vie qui pouvait avoir un certain niveau de confort, mais qui n'était pas accessible à une très large partie de l'humanité.
Alors, les routes de la soie, on va y revenir parce que l'enjeu est important. Il y a beaucoup de pays qui s'y sont intéressés, qui se sont mis un peu dans ce profil-là. La France, pas encore trop, mais il n'est jamais trop tard pour bien faire.
Oui, mais ce qui est très intéressant, c'est de voir comment le monde a basculé autour de ces routes de la soie, puisque en 1980, la quasi-totalité des pays du monde, je crois sauf la Mongolie, leur premier partenaire commercial, c'était les États-Unis d'Amérique. Et en 2018, sur la plupart des continents, une très large majorité de pays, y compris en Europe, dans la plupart des pays européens, ont comme premier partenaire commercial la Chine et plus les États-Unis d'Amérique. Donc effectivement, et ça c'est, on est dans la lignée de ce que la manière dont Marx avait analysé le développement du capitalisme, c'est-à-dire des centres successifs qui produisent sur des échelles élargies et qui remodèlent à chaque fois les routes du commerce pour acheminer les matières premières et les marchandises sur des marchés qui sont de plus en plus grands. Et de ce fait-là, effectivement, la Chine ne pouvait que se développer en passant par une échelle agrandie, donc en développant de nouvelles routes, de nouvelles infrastructures. Et il faut noter aussi, je pense que c'est important, parce que on entend souvent des choses, par exemple Macron qui va dire, il avait fait ça dans une île du Pacifique, dire « nous, la France, nous allons vous protéger contre l'impérialisme chinois ». Alors que c'était une île qui avait été colonisée, mais pas par les Chinois, hein, dans son passé. Donc les gens avaient un peu mal reçu cette proposition parce que ces pays-là savent ce que la Chine peut leur apporter. Et quand on fait le bilan, par exemple, des routes de la soie en Afrique, l'Afrique qui a été colonisée par la France, l'Angleterre en particulier, qui a été ensuite sous la dépendance du néocolonialisme français, il a fallu qu'elle attende les nouvelles routes de la soie pour voir arriver sur son territoire les premières lignes de chemin de fer modernes, les premières grandes usines électriques. C'est-à-dire que ces pays qu'on a prétendu aider au développement, en fait, on n'a jamais construit les infrastructures dont ils avaient besoin. Et le premier pays qui a été capable de faire ça, c'est la Chine.
Donc cette évolution de la situation internationale, hein, ça permet aussi à la Chine de se positionner comme... je ne vais pas dire référent politique, ce n'est pas du tout le cas, hein, mais comme partenaire de développement, d'une manière générale. Et là, il y a quand même des évolutions notables. Par exemple, un rapport de l'Union sur les relations entre l'Union européenne et la Chine, un rapport de 153 pages, hein, est assez intéressant puisqu'il évoque justement le fait de trouver... Une coopération nouvelle, renouveler une coopération franco-chinoise, justement autour de mettre en commun les savoirs, les savoir-faire, pourquoi pas les moyens, les outils, pour faire que chacun évolue et peut-être pour la France refasse un peu surface par rapport à des situations un peu complexes en ce moment, vécues par les personnes qui vivent en France.
Oui, et ces coopérations, d'ailleurs, de fait, elles existent et elles se développent parce que sur un secteur donné, quand on va chercher des solutions pour avancer, quand on va chercher des partenaires, de plus en plus souvent, on se rend compte que la Chine a énormément à apporter. On a des coopérations au niveau scientifique qui sont très importantes, hein, par exemple au niveau spatial, entre le CNES et puis l'Agence spatiale chinoise, par exemple. Il y a des projets de satellites scientifiques qui se sont réalisés, qui sont très importants, à beaucoup, beaucoup de niveaux. Il y a des entreprises françaises qui sont présentes en Chine. Il y a beaucoup d'entreprises chinoises qui sont présentes en France. Et l'énergie de développement, la créativité et la capacité d'invention aujourd'hui de la Chine fait que dans tous les cas, c'est même impossible maintenant d'empêcher ces relations de se développer. Et ça, c'est extrêmement intéressant parce que ça veut dire que pour la France aussi, la Chine apporte la possibilité de choisir notre voie de développement dans une logique de partenariat. La France n'est plus obligée, elle aussi, de regarder uniquement de l'autre côté de l'Atlantique. Elle peut concevoir son développement dans un environnement qui est aujourd'hui incarné par la Chine, mais qui est en fait l'environnement mondial du Sud qui se développe. Et donc, à travers ce que la Chine construit, ce n'est pas seulement la Chine, c'est l'ensemble des BRICS, auxquels adhèrent notamment, pour nous, ça nous concerne, de plus en plus de pays africains. Je pense en particulier, par exemple, à l'Algérie, qui est un pays avec lequel on a une longue histoire et beaucoup de complémentarité économique à potentiel. Et donc, la France peut se ressaisir, elle aussi, de son histoire, puisqu'on a bien vu dans cet ouvrage que les modernisations d'un pays, elles s'effectuent par rapport à une référence sur une histoire longue, mais la France aussi. Elle a cette histoire longue de la Révolution française qui est une révolution bourgeoise mais qui soulève d'autres idées, d'autres aspirations et qui vont se conclure aussi à travers la construction du premier État socialiste au monde qui est la Commune de Paris. Et peut-être que la France, dans ce nouvel environnement, elle peut se ressaisir de son histoire et se projeter à nouveau dans une modernisation dont elle a, nous pensons, urgemment besoin.
Alors, c'est vrai que pour réussir ça, ou pour pour avoir un intérêt, l'image de la Chine doit sans doute encore évoluer positivement, parce que pendant 10 ans, moi j'ai assisté un peu à un travail de China bashing, et qui était sans doute lié à sa réussite économique et des rivalités, et peut-être des craintes légitimes, hein, je ne dis pas le contraire, qui pouvaient se présenter. Et donc, je pense qu'il y a une certaine forme d'injustice à avoir laissé à la Chine les moyens de vivre mieux quand on est occidental, français, par le fait qu'elle nous produit des choses du quotidien et qui ne nous ont pas coûté cher, sauf peut-être donner un petit peu de technologie en échange. Mais bon, voilà, il y a peut-être une forme d'ingratitude de ce côté-là. Mais est-ce qu'on peut justement considérer que la Chine fait suffisamment ou a compris suffisamment les logiques de communication pour mettre en avant ce qu'elle peut apporter au monde dans de meilleures conditions en termes d'image?
Alors moi, j'ai tendance à dire que oui, avec subtilité d'ailleurs. C'est-à-dire que la Chine, dans la manière dont elle travaille, dont elle se positionne, ce qu'il faut déjà se rappeler, c'est que jusqu'il y a quelques années, la Chine a été extrêmement modeste dans son expression publique sur l'arène diplomatique. Elle considérait probablement, c'est une hypothèse que je fais, qu'elle n'avait pas encore les moyens, elle n'avait pas encore fait ses preuves suffisamment pour être un peu plus affirmative, et donc elle a parfois mentionné sa réprobation, mais souvent d'une manière extrêmement limitée et discrète. Et je crois que c'est une leçon d'humilité aussi qu'il faut retenir de la Chine, c'est-à-dire que la Chine a été humble pendant très 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 longtemps face à l'Occident, et aujourd'hui elle reste humble, et je trouve que ça c'est important, c'est-à-dire qu'elle ne dit pas « ça y est, nous avons réussi, il faut suivre notre voie », au contraire, elle dit « nous avons trouvé une voie pour nous », c'est l'invite que nous reproduisons dans le livre, « nous avons trouvé une voie pour nous », c'est le socialisme caractéristique de la Chine, Nous ne voulons pas vous l'imposer, mais nous voulons juste vous dire qu'elle nous pousse à rechercher un destin commun pour l'humanité dans lequel chacun doit pouvoir avoir sa place. Et je crois qu'il faut retenir aussi de ça que nous aussi, il faut regarder le monde qui nous entoure avec humilité, quitter ce regard qui nous vient probablement de notre passé colonisateur, un peu condescendant sur les pays du Sud en général et sur les autres pays, et nous mettre à apprendre de ce que chaque partie de l'humanité peut apporter à ce destin commun dont on voit bien tous les jours maintenant comment il se manifeste. Hein, l'humanité ne s'en sortira que ensemble et pas les uns contre les autres.
Voilà, alors c'est vrai que pendant les années Union soviétique, hein, il y avait une crainte de l'Occident, de conquête. On retrouve un petit peu ça maintenant avec le président russe, dont on craint qu'il ne déborde largement au-dessus même de l'Ukraine pour envahir le monde. Donc avec la Chine, par contre, on est dans une logique très différente d'approche du monde, puisque si on prend un exemple, ses proches voisins, que ce soit l'Iran, l'Afghanistan, etc., on ne peut pas dire qu'il y ait une idéologie commune entre ces pays, mais il y a un respect de l'autonomie de chaque pays pour développer dans l'intérêt commun le business notamment.
Oui, c'est une approche effectivement qui est nouvelle, mais qui répond, c'est une question, j'étais hier à Vitry-sur-Seine pour débattre du livre, et c'est une question qui est revenue dans le débat, et je pense que l'Union soviétique est arrivée à un moment où il fallait changer les rapports mondiaux dans le sens de permettre aux pays d'acquérir leur indépendance politique, et donc effectivement il y avait un travail politique commun autour de l'international communiste, de la constitution de parti communiste, et extrêmement de solidarité sur ce terrain-là, et je crois que la Chine a compris que son rôle était d'aider le monde à franchir le plafond de verre du sous-développement. L'essentiel est donc de permettre à chaque pays d'accéder aux ressources nécessaires pour son propre développement et de permettre, puisqu'on a reconnu l'importance de la souveraineté de chacun, et la Chine est attachée à la reconnaissance de sa propre souveraineté, elle a raison, il faut accepter la souveraineté des autres. Et je pense qu'un exemple intéressant de ça, c'est ce qui s'est passé avec le Brésil, puisque le Brésil a été membre fondateur des BRICS avec Dilma Rousseff et Lula, puis est arrivé Bolsonaro au pouvoir, qui est un adversaire des BRICS et qui voulait se rapprocher des États-Unis, et la Chine a respecté le choix du Brésil, a respecté le nouveau gouvernement, et c'est Bolsonaro de lui-même qui s'est rendu compte qu'il n'avait pas du tout intérêt à rompre tous les liens qui s'étaient construits. Et puis maintenant, Lula est revenu au pouvoir, donc le Brésil a fait aussi son chemin à travers des péripéties qu'on ne pouvait peut-être pas éviter, mais qui par contre n'ont pas freiné finalement la marche vers le monde multipolaire.
Alors, si on revient à la France, mais déjà en parlant de l'Europe, est-ce qu'il y a des pays en Europe qui ont davantage concrétisé leurs nouvelles relations à la Chine, avancé aussi dans ces échanges? Et est-ce que la France, qui est sans doute un peu en retard, peut éventuellement envisager de le combler, et à quelles conditions?
Alors, ce qui ressort un petit peu, c'est que l'Europe, en fait, telle qu'elle est aujourd'hui, enfin, ce qu'on appelle l'Europe, c'est-à-dire, quand on dit Europe, il faut savoir...
L'Union européenne, on veut dire, l'Union européenne.
L'Union européenne, c'est-à-dire une partie de l'Europe, mais une partie quand même grande, elle a un peu cette caractéristique, je trouve, qui ressemble un peu au monde, c'est-à-dire que c'est un univers social très divisé, avec de gros écarts de niveau de vie entre les pays, des pays qui sont plus producteurs et des pays qui profitent aussi un peu de la production des autres, qui ont délocalisé leurs usines dans des zones où les salaires et les niveaux de vie sont inférieurs. Et on voit que les pays qui ont noué le plus de relations avec la Chine, parce qu'ils ont besoin aussi de ce développement, c'est les pays du sud et de l'est de l'Europe en particulier, hein, qui sont en train de effectivement se saisir des opportunités que peut leur offrir la Chine pour améliorer leur situation et accélérer leur développement. Donc ça n'est pas finalement étranger à ce qu'on voit sur l'ensemble du monde. Et probablement que cette division de l'Europe est une des questions majeures, c'est-à-dire est-ce que on arrive à égaliser aussi les niveaux de développement et à pas faire sortir de l'Europe de cette situation où il y a quelques pays qui la dominent et les autres ne sont là que pour obéir et chaque fois qu'ils contestent, on les remet à leur place, en quelque sorte.
Bien, merci Jean-Julien. Pour conclure, on va proposer aux auditeurs de se plonger dans cet ouvrage « Quand la France s'éveillera à la Chine, la longue marche vers un monde multipolaire ». Merci pour votre contribution avec donc aussi Jean-Julien pardon, et vous, donc Franck Marsal. Et donc, on va dire la suite aux prochains épisodes.
Eh bien, peut-être, peut-être.
Merci, très temps. Belle journée, Jean.
Bonne journée, au revoir.
Voilà, l'émission de Chine est terminée. Et on se retrouve le mois prochain pour d'autres aventures sur la Chine. Voilà, restez à l'écoute de Radio Campus dans quelques instants qui s'adressera aux enfants.
Vous écoutez Radio Campus Lille, il est 13h.